Vous êtes sur RTL.
RTL Soir, Julien Cellier. Bonsoir Julien.
Bonsoir Isabelle, bonsoir à tous. Bienvenue dans RTL Soir. Ce soir, à la une, vous allez pouvoir poser toutes vos questions au 3210 à Alain Fischer, le monsieur vaccin, le médecin qui dirige la campagne d'injection. Faut-il redouter le nouveau variant du Covid? L'Europe suspend tous ses vols avec l'Afrique australe. Et puis, est-ce qu'il y aura assez de troisième dose pour tous? Nous allons échanger avec Alain Fischer pour tenter d'y voir plus clair au lendemain des annonces du gouvernement et au moment où la cinquième vague nous frappe. Les autres titres de l'actualité maintenant, ils sont à suivre dans votre journal. Alexandre de Saint-Aignan, bonsoir.
Bonsoir Julien, bonsoir à tous. Le parquet de Paris ouvre une enquête préliminaire contre Nicolas Hulot au lendemain de la diffusion de plusieurs témoignages qu'il accuse d'agression sexuelle et de viol.
Sandrine Rousseau sera la seconde invitée de RTL Soir. La cadre d'Europe Écologie Les Verts explique avoir fait partie de celles qui avaient alerté sur le danger de travailler avec Nicolas Hulot.
Un coup de tonnerre à Notre-Dame, la démission de l'archevêque de Paris soupçonné d'avoir entretenu une liaison avec une femme. Les courses, c'est à Vincennes ce soir. Les pronostics de Dominique Cordier pour le Quintet, le 5, le 15, le 10, le 14, le 2, le 9, le 6, la dernière minute, le numéro 15, Fogo Pico.
À 18h40, on va refaire nos régions dans RTL Soir. 20 minutes près de chez vous, de vos combats, de vos projets, de nos terroirs. Ce soir, Laurent Deutsch nous plonge dans l'histoire de la Bretagne. Un village sans nom de rue dans la Creuse et puis des cèpes cuisinés par un chef étoilé dans le sud-ouest. 19h15, ils refont la France, la presse étrangère qui scrute notre actu. Autour d'Amandine Bégaud, bonsoir Amandine.
Bonsoir Julien, bonsoir à tous.
Quel est le programme?
On se penchera notamment sur la question de la vaccination des enfants. Est-ce que ça fait plus débat ici en France qu'ailleurs. On ira notamment voir comment ça se passe en Israël où ça a commencé lundi.
Et puis des points réguliers sur le temps tout au long de l'émission avec vous Valérie Quintin, bonsoir.
Bonsoir.
La tendance?
Un temps très très hivernal tout le week-end. On va avoir de la neige en montagne mais pas seulement, on risque d'avoir un petit peu de neige en plaine également.
Un détail dans quelques minutes.
RTL Soir.
Accusé de viol et d'agression sexuelle, le parquet de Paris ouvre une enquête contre Nicolas Hulot.
Au lendemain de la diffusion de plusieurs témoignages de victimes présumées dans un reportage d'Envoyé spécial, des femmes qui racontent une tentative de fellation forcée, des caresses, RTL Midi recevait tout à l'heure Maître Alain Jakubowicz, l'avocat de Nicolas Hulot.
Je sais d'expérience d'avocat ce qu'il en est de ce type de dossier. Je ne traite pas ces femmes de menteuses. Je dis simplement que 32 ans après les faits, l'évolution des choses de la société fait porter un regard qui est différent. Ces femmes parlent de faits qui se sont passés il y a 32 ans, tels qu'elle en a elle-même le souvenir. Je suis à longueur d'année devant de cours d'assises et devant des tribunaux correctionnels. Et je vois comment la mémoire des choses et des gens s'érode avec le temps, que la lecture des choses est différente en fonction de toute une série de paramètres.
Alain Jakubowicz, l'avocat de Nicolas Hulot, invité tout à l'heure de RTL Midi avec Amandine Bégaud et Pascal Praud. Il y a au moins 6 femmes qui accusent l'ancien animateur télé et ancien ministre de l'Environnement. L'une d'entre elles était mineure au moment des faits et c'est sur elle que l'enquête va se concentrer, Alice Moreno.
Absolument. Le parquet a pris l'habitude d'ouvrir systématiquement des enquêtes sur les accusations de violences sexuelles contre des mineurs. Celle ouverte cet après-midi va porter sur le seul témoignage de Sylvia. Elle affirme que Nicolas Hulot a tenté de lui imposer une fellation. C'était en 1989. Elle était alors âgée de 16 ans. Les enquêteurs vont bien vérifier que ces faits tombent sous le coup de la prescription, même si cela laisse peu de doutes. Et puis si d'autres femmes décident de porter plainte contre Nicolas Hulot pour des faits similaires, le parquet n'exclut pas d'élargir l'enquête ouverte aujourd'hui.
Alice, avant même la diffusion de ce reportage d'Envoyé spécial, Nicolas Hulot avait nié les faits en bloc. Désormais, sa défense s'organise.
Oui, même si Nicolas Hulot lui-même a assuré qu'il ne s'exprimerait plus, il semble chercher des soutiens, en atteste ce message rédigé par son entourage. Ce SMS devait être envoyé à des dizaines de femmes ayant traversé la vie professionnelle ou privée de l'ancien ministre et invitait donc ces femmes à signer une tribune dans laquelle elles assureraient n'avoir jamais vu ou entendu parler de tels agissements de la part de Nicolas Hulot. Mais le projet a semble-t-il été abandonné. Quant à une possible riposte au pénal, une plainte pour diffamation, son avocat nous assure que ce n'est pas le sujet aujourd'hui.
Alice Moreno pour RTL.
RTL, 18h04. La crainte crainte de ce nouveau variant sud-africain potentiellement très contagieux. Un cas vient d'être détecté en Belgique, c'est le premier sur le continent européen.
De nombreux pays, dont la France, ont décidé de suspendre tous les vols en provenance d'Afrique australe. Bonsoir Odile Pouget.
Bonsoir.
Alors on a déjà vu passer beaucoup de variants jusqu'à présent, sans forcément que ça provoque autant d'inquiétudes. Est-ce qu'elle est légitime, cette inquiétude ?
Alors pour l'instant, les informations scientifiques concernant B11529, c'est son nom de code, sont très sommaires, ce variant ayant été détecté il y a quelques jours à peine. Ce qui alerte tout de même les scientifiques, c'est la multitude des mutations observées sur sa protéine spike, les pics qui hérissent la surface du virus. Une trentaine de mutations au total, c'est un record. Des mutations qui pourraient notamment le rendre plus contagieux, avec une capacité de transmission accrue. L'espoir, il faut le noter tout de même, c'est qu'il est arrivé par le passé que des variants émergent et disparaissent aussi vite.
Alors, il est peut-être plus contagieux, d'accord, mais est-ce que les vaccins restent efficaces ?
Alors, c'est évidemment la question. Il est encore là trop tôt pour y répondre. Pour l'instant, les virologues que nous avons consultés assurent qu'ils ne sont pas inquiets pour la protection conférée par les vaccins contre les formes sévères de la maladie, mais qu'il y a une incertitude concernant la transmissibilité. Ce soir, l'Agence européenne du médicament estime qu'il est prématuré de prévoir une adaptation des vaccins à ce nouveau variant. Et puis, des études réalisées par Pfizer-BioNTech pour savoir si ce nouveau variant est capable d'échapper à la protection vaccinale sont attendus d'ici 15 jours.
Odile Pouget pour RTL et bien entendu on interrogera Alain Fischer dans quelques instants sur ce nouveau variant donc menaçant. Le médecin qui dirige la campagne de vaccination dans notre pays sera notre invité dans quelques minutes et vous allez pouvoir lui poser toutes vos questions au 3210.
Et face à la crainte de ce nouveau variant, les bourses européennes terminent en très forte baisse. Ce soir, Paris a chuté de 4,75%, le CAC 40 autour des 6739 points. C'est sa pire séance depuis le 18 mars 2020, au moment de l'instauration du premier confinement en France. On parlait de la Belgique il y a quelques instants, c'est là où le premier cas de nouveau variant a été détecté en Europe. Et bien, le pays subit actuellement une forte hausse des contaminations. Les autorités belges viennent de fermer l'ensemble des discothèques du pays. Cafés et restaurants devront fermer à 23h.
En France aussi, la courbe des contaminations entraîne de nouvelles restrictions, et notamment pour les stations de ski.
Après une saison blanche l'an dernier, le Premier ministre les avait autorisés à rouvrir sans passe sanitaire à condition que le taux d'incidence ne dépasse pas les 200. Mais la barre a été franchie hier. Le ministre de la Santé a donc confirmé que les skieurs devront avoir leur passe sanitaire pour prendre les remontées mécaniques. Fabrice Boutet, directeur du domaine skiable de l'Alpe d'Huez.
Ça sera un contrôle systématique à nos caisses. Donc on est en train de s'armer de zapettes nous permettant d'avoir le forfait valide avec un passe sanitaire présenté. Des contrôles aléatoires dans les files d'attente de nos remontées mécaniques. Donc ça veut dire qu'en pied de piste, nous allons mettre des équipes à nous qui vont remonter les files d'attente et demander le passe sanitaire.
Il est impossible de contrôler tous les skieurs ?
Non, ça sera impossible. Sur l'Alpe d'Huez, vous allez avoir des journées à plus de 26 000 skieurs. Donc c'est impossible pour nous de contrôler tout le monde. Et ensuite, on n'est pas un parc d'attraction, on n'a pas qu'une seule porte d'entrée. Nous, on a une dizaine de remontées structurant en pied de station. C'est impossible de contrôler tout le monde.
Des propos recueillis par Serge Pueyo pour RTL.
Allez, dans un instant, dans ce journal sur RTL, la démission de l'archevêque de Paris, sa liaison avec une femme a été divulguée dans la presse. À tout de suite.
RTL Soir, Julien Sellier. Julien Sellier,
RTL Soir.
Et la suite de votre journal, donc à 18h09 sur RTL. L'archevêque de Paris a présenté sa démission au pape.
Monseigneur Aupetit est mis en cause pour avoir eu une relation ambiguë avec une femme, Marie Guerrier.
Oui, c'était en 2012. Il reconnaît un comportement ambigu, mais pas de relation sexuelle, d'après son entourage contacté cet après-midi. Une relation qui remonte donc à 10 ans et à laquelle il a mis un terme. S'il a écrit au pape cette semaine, c'est pour préserver son diocèse. Michel Aupetit ne veut pas, dit-il, être une source de division à la suite d'articles de presse et qui parlent de cette liaison et pointent sa gestion autoritaire des affaires de l'église parisienne. Alors il s'en remet au pape, on ne parle pas de démission. Michel Aupetit a remis sa charge d'évêque dans les mains du pape François, c'est en ces termes que les choses se formalisent et c'est donc au pape maintenant de trancher. Soit il lui demande de rester en poste, soit il le décharge de sa mission et il redevient simple prêtre. Michel Aupetit est à la tête de l'archidiocèse de Paris depuis 4 ans, c'est le plus
gros diocèse de France, le plus riche, le plus puissant, c'est donc un poste exposé. Son parcours atypique a suscité un intérêt tout particulier. Ancien médecin, entré au séminaire à 39 ans, une ascension rapide dans la hiérarchie de l'Église. En attendant la décision du pape, il continue d'assumer ses responsabilités, notamment des confirmations d'adultes à célébrer demain à Saint-Sulpice.
Marie Guerrier pour RTL.
Deux jours après la tragédie qui a coûté la vie à 27 exilés au large de Calais, le ton monte entre Londres et Paris.
Une réunion est prévue dimanche au sujet de la multiplication de ces tentatives de traverser dans la Manche, mais les Anglais ne sont plus les bienvenus autour de la table, alors que Boris Johnson a publié une lettre ouverte pour demander à la France de reprendre les immigrés qui arrivent en Grande-Bretagne. Et ben, ça n'a pas du tout plu à Emmanuel Macron.
Je suis surpris des méthodes quand elles ne sont pas sérieuses. On ne communique pas d'un dirigeant à l'autre sur ces questions-là par tweet et par lettre qu'on rend public. Nous ne sommes pas des lanceurs d'alerte. Allons, allons.
Voilà, on retrouve Marie Billon à Londres pour RTL. Bonsoir Marie.
Bonsoir Alexandre.
Alors quelle est la réaction ce soir du Royaume-Uni ?
Écoutez, côté britannique, on est choqué que la France soit choquée. Lors d'un point presse, un porte-parole de Downing Street a dit que le contenu de la lettre n'était pas neuf, que ces points avaient déjà été discutés, notamment l'idée de renvoyer tous les migrants traversant illégalement la Manche en France. Sur la BBC, le ministre britannique Grant Chaps a précisé qu'aucun pays n'a intérêt à s'attaquer à ce problème tout seul.
Je ne vois rien d'infamant à demander une coopération étroite avec nos plus proches voisins. Les propositions ont été faites, de bonne foi, et j'espère qu'ils verront l'intérêt de se rencontrer pour en discuter.
Selon Downing Street, si la lettre a été publiée sur Twitter, c'est parce que le public veut savoir ce qui est fait pour régler le problème. Exclure la France de la rencontre de dimanche risque de ne pas faire changer d'avis ceux qui pensent, comme le dit un article du journal de droite, le Daily Telegraph, qu'Emmanuel Macron pourrait régler la question des migrants s'il le voulait vraiment.
À Londres pour RTL, Marie Billon.
RTL Soir, la bonne nouvelle du jour.
À Strasbourg, c'est le grand retour du marché de Noël après son annulation l'an dernier à cause de la pandémie. L'odeur du pain d'épices et du vin chaud règne à nouveau au pied de la cathédrale pour le plus grand bonheur des commerçants.
500 litres, je dirais. Peut-être plus.
C'est ce qu'il faut pour la.
Mais il faut le double il y a deux ans, automatiquement, les gens sont en manque. Ça nous avait manqué l'année dernière.
Bah, ça fait du bien. Ça fait du bien. On a eu peur encore jusqu'à la dernière minute. On est content. On espère, on croise les doigts pour que ça dure jusqu'à la fin du mois de décembre.
C'est juste du bonheur, quoi. Pouvoir partager des émotions, partager cette fameuse fête de Noël. On veut juste vivre, hein.
Voilà, 500 litres de vin chaud, ça fait pas mal. Hein.
Les propos
recueillis par Yannick Collin pour RTL.
On veut juste vivre, c'est bien dit, effectivement. Ouais. Merci Alexandre de Saint-Aignan. À tout à l'heure. Temps maintenant pour Valérie. Bon là, c'est franchement l'hiver. Là, hein.
Ouais, cette fois, on y est. Alors oui, on va avoir de la neige en montagne, mais on va avoir de la neige en plaine aussi demain matin, probablement. Et même ce soir, ça arrive déjà localement entre la Creuse, la Bourgogne, les Ardennes. La dégradation qui est arrivée par le nord-ouest va s'étendre à tout le pays pratiquement demain. Et donc demain matin, entre les Hauts-de-France, le nord du bassin parisien et le Grand Est, on pourrait avoir 2 à 3 cm de neige jusqu'en plaine. Évidemment, il va neiger en montagne une grande partie de la journée, aux alentours de 300 à 400 mètres. Sinon, ce seront des grains, parfois orageux, parfois avec du grésil. Et on va trouver quand même le soleil entre le Roussillon et la Provence, mais enfin, il ne sera pas très très vaillant. Quant aux températures, elles vont baisser. 2 degrés demain matin à Paris, à Montluçon et à Bourg-en-Bresse. 4 degrés à Gap et Charleville-Mézières demain après-midi. 6 pour Paris et Évreux et 12 à Marseille.
Merci Valérie.
La brigade RTL Soir.
Et maintenant, sur RTL, on va continuer de vous épauler face à cette cinquième vague parce que les règles changent à l'école et vous, les parents d'écoliers, de collégiens, vous êtes sans doute, comme nous, un peu perdus. On va donc poser 3 questions à la brigade RTL pour y voir plus clair. Bonsoir Sophie Jousselin.
Bonsoir Julien, bonsoir à tous.
Alors tout d'abord, le ministre dit « Terminé, on ne ferme plus les classes à l'école primaire au moindre cas, mais on testera, s'il y a un cas, tout le monde. » Sophie, s'il y a 10 cas négatifs, 10 cas positifs dans une classe, qu'est-ce qui se passe ?
Eh bien effectivement, dans ce cas-là, la classe pourra fermer, mais rien n'est formellement écrit. Il n'y a pas un nombre défini de cas qui renverrait automatiquement les élèves chez eux. C'est l'Agence régionale de santé qui tranchera au cas par cas. Elle regardera par exemple s'il y a d'autres cas positifs dans d'autres classes de l'école, si l'élève contaminé a des frères et sœurs dans l'établissement, si le virus circule beaucoup dans la ville. Et une classe pourra aussi être fermée s'il est impossible de récupérer rapidement les résultats des tests de tous les élèves après la découverte d'un cas positif dans une classe.
Alors, il y a des parents, fatalement, qui vont refuser les tests pour les enfants. À ce moment-là, s'il y a un cas positif dans la classe de leur petit, eh bien, le petit non testé, on parle de l'école primaire, hein, devra rester à la maison. Est-ce qu'il aura quand même cours à distance ?
Oui, pendant ces 7 jours, il ne se tournera pas les pouces. La continuité pédagogique est obligatoire, donc l'enseignement devra lui faire parvenir des devoirs pendant son absence.
Dernière question pour les collégiens maintenant, parce qu'en 6e, à 11 ans, on est à la limite de l'éligibilité pour être vacciné. Donc on ne peut pas être vacciné. Comment ça se passe pour ces enfants de 11 ans, ces élèves de 6e ?
Alors s'il y a un cas positif, dans ce cas, il faudra tester les cas contacts du collégien, c'est-à-dire les enfants qu'il aura croisés sans masque les jours précédents, donc principalement à la cantine ou en cours de sport. Et pour ces élèves de 6e, il faut noter une nouveauté. À partir de lundi, ils vont tous recevoir une boîte de 10 autotests. Ce ne sera pas obligatoire, mais ils seront incités à se tester deux fois par semaine à la maison.
Les réponses de la brigade RTL aux questions des parents. Merci beaucoup Sophie Jousselin. Dans un instant, on va prolonger cet exercice de pédagogie. On va vous aider à y voir plus clair sur le nouveau variant menaçant, sur la troisième dose pour tous. RTL, plus que jamais à vos côtés face à cette énième vague. Vous allez pouvoir poser toutes vos questions au 3210 à Alain Fischer, le médecin qui dirige la campagne de vaccination dans notre pays. A tout de suite sur RTL.
RTL Soir, Julien Sellier. Julien Sellier,
l'invité d'RTL Soir.
Allez, bonne fin de journée, 18h19, RTL Soir à vos côtés. Vous vous posez peut-être des questions sur la troisième dose pour tous, sur les délais à respecter, sur le pass sanitaire, sur ce nouveau variant venu d'Afrique australe. On a besoin d'y voir plus clair au lendemain des nouvelles annonces du gouvernement. Et au moment où la cinquième vague frappe, ça tombe bien ce soir. N'hésitez pas, si vous avez des interrogations, vous appelez RTL et vous pouvez échanger directement au 3210 avec notre invité Alain Fischer. Bonsoir Alain Fischer.
Bonsoir.
Depuis des mois maintenant, vous coordonnez cette campagne de vaccination dans notre pays. Vous êtes immunologue, président de ce conseil d'orientation de la stratégie vaccinale. Avant toute chose, Alain Fischer, on a besoin de votre expertise sur ce nouveau variant qui fait la une, là, détecté en Afrique du Sud. La France et l'ensemble des 27 de l'Union européenne suspendent tous leurs vols avec l'Afrique australe. On a justement un auditeur qui nous appelle d'Afrique du Sud. C'est Michel, il habite à Hermanus, c'est près du Cap. Bonsoir Michel. Est-ce qu'il
Bonsoir
est là,
Julien.
Michel Bonsoir,
Bonsoir
Michel.
Michel,
il est là. Alain Fischer, écoute votre question, Michel.
Écoutez, moi je suis résident en Afrique du Sud depuis 10 ans. Pour faire simple, hier soir, quand je me suis couché, il n'y avait rien sur les médias, ou les médias locaux ne parlaient de rien. Et ce matin, au réveil, bien, tous les vols étaient annulés. Hein. Enfin, donc c'est cette rapidité de réaction fulgurante qui nous perturbe. On devait, par exemple, recevoir nos filles pour les fêtes de cette année. On n'a aucune visibilité. On ne sait pas si elles vont pouvoir tenir. Donc ma question, c'est question. Est-ce que ce B1.1.250 a déjà été détecté en France et en Europe? Et peut-il être réellement plus vicieux que ça de cette heure?
Alors. Je vais essayer de traduire vos propos parce que la liaison avec l'Afrique du Sud, c'est loin, l'Afrique du Sud, elle est parfois un petit peu capricieuse. Donc Michel nous explique que ses filles ne vont pas forcément pouvoir venir pour les fêtes de fin d'année parce qu'il n'y a plus de vols pour l'Afrique du Sud. Et il se demande si ce variant, et nous tous, on se demande s'il est plus virulent, s'il est potentiellement résistant au vaccin. Est-ce que vous avez des réponses?
Pas ce soir, bien sûr, parce que les nouvelles sont toutes récentes. Et je comprends les questions que se pose ce monsieur. Ce qu'on sait, c'est qu'il y a, je crois, une trentaine de cas de ce nouveau variant qui ont été détectés en Afrique du Sud ou à proximité, qu'il porte de nombreuses mutations et qu'il a un potentiel, mais on ne peut pas dire plus que cela aujourd'hui, d'être un peu moins sensible à la réponse immunitaire liée au vaccin que ne l'est le Delta, par exemple. Et puis que d'autres mutations pourraient éventuellement le rendre contagieux. Mais c'est trop tôt pour dire. Il y a un cas en Belgique, ça c'est pour répondre à monsieur qui se pose la question de l'Europe. Donc ce qui montre qu'il y a déjà eu des transports des personnes qui ont voyagé. On ne peut absolument pas dire ce soir, enfin en tout cas moi je ne peux absolument pas dire ce soir, si ce variant restera un énième variant comme il y en a énormément qui ont été décrits, ou bien est-ce que celui-là sera source d'inquiétude. Aujourd'hui, et je pense qu'on comprend que les mesures de précaution aient été prises très rapidement, c'est très bien cette réactivité immédiate, même si in fine elle s'avérait excessive, bah, tant mieux, on lèvera ces barrières, mais si à l'inverse il s'avérait que ce variant était un petit peu plus dangereux, on se félicitera que des mesures aient été prises très tôt.
Mais s'il est dangereux, on est d'accord, fermer les frontières, ça peut permettre de retarder l'échéance, mais on a bien vu que le variant Delta, qu'un variant très coriace,
c'est toujours mieux de limiter la rapidité de l'expansion, ça donne le temps de réagir, enfin de mieux analyser les caractéristiques de ce variant et ensuite de s'adapter, qui peut aller in fine, hein, si je prends les choses à l'extrême, d'adapter les vaccins, hein, ce qui est faisable, notamment avec les vaccins ARN. On n'en est pas là du tout, mais si je prends au pire.
Le cas extrême. Ouais. Il faudra combien de temps pour mieux connaître ce variant? Quoi, 10-15 jours, dit Pfizer, qui veut étudier si son vaccin est vraiment efficace sur ce variant?
Il y a deux types, trois types de données à recueillir. Il y a ce que vous venez d'indiquer, c'est de tester les réponses immunes telles qu'elles existent aujourd'hui sur ce virus-là, sur plusieurs paramètres. Suivre évidemment son épidémiologie, quelle est la fréquence des cas, où est-ce qu'on les détecte, et puis en étudier ses caractéristiques en termes de capacité d'infection de cellules, etc. Il y a des choses à faire au laboratoire, donc ça va prendre un petit peu de temps, mais évidemment beaucoup de monde va se mobiliser sur cette question.
Alors venons-en maintenant à la campagne de vaccination. Dès demain, samedi, tous les adultes vont pouvoir recevoir un rappel, une troisième dose bien souvent, 5 mois après la deuxième. Est-ce que cet élargissement de la campagne était devenu nécessaire face à la cinquième vague ?
Alors, je pense qu'il faut rappeler d'abord que, d'une manière générale, en vaccination, le fait d'avoir une ou deux doses, comme c'est le cas pour la vaccination contre le Covid, suivie plus tard d'un rappel, c'est une loi générale de la vaccination. Donc, on est dans un cadre, finalement, assez classique. Bon, le délai est un peu plus court que ce qu'on observe pour d'autres maladies infectieuses, mais finalement, il n'y a rien d'absolument extraordinaire. Et ce qui justifie d'avoir une politique active de rappel... je préciserai ça dans un instant. C'est la conjonction d'une nouvelle vague qui s'explique par la météo en premier, le fait que les gens se rassemblent à l'intérieur, que les mesures barrières sont quand même un tout petit moins bien respectées. Et puis, je reviens à la vaccination, c'est que le bénéfice de la prime vaccination s'effrite un petit peu, notamment chez les plus âgés.
Oui, c'est ça, parce que le délai est de 5 mois maintenant. Ça veut dire qu'au bout de 5 mois, la deuxième dose ne protège pas.
Ça, c'est une affaire de pragmatisme, tout à fait logique. C'est que les Israéliens, qui ont été les premiers à proposer des rappels, parce qu'ils ont observé une vague dès l'été dernier, l'ont proposé à 5 mois. Ça a très bien marché. Et on a des données qui sont, je pense, c'est important de l'indiquer à tout le monde, à la fois en termes d'efficacité et de sécurité, de ce rappel qui permet d'obtenir des taux d'anticorps très élevés, une très très bonne protection contre l'infection, contre les formes graves, dans ce contexte. Donc, utilisons ces informations à bon escient, pour proposer un schéma de vaccination dès 5 mois. Mais ce que j'ai envie de dire dans ce rappel, c'est bien que tous les adultes puissent en bénéficier dès qu'ils ont atteint 5 mois après leur primo-vaccination, mais je dirais que la priorité des priorités, c'est quand même que les personnes les plus fragiles, les plus âgées, les malades, les précaires aussi, il ne faut pas les oublier, et ce rappel. Je pense que vraiment, c'est ultra prioritaire. C'est très très bien qu'un quelqu'un de votre âge reçoive son rappel, mais c'est encore mieux que quelqu'un de mon âge reçoive le rappel, si je puis dire, et encore plus des gens malades ou plus âgés que moi. Et puis, il ne faut pas oublier, par ailleurs, la poursuite. Il ne faut vraiment pas perdre l'objectif de poursuivre la primo-vaccination. Il y a encore, comme chacun le sait, des personnes âgées ou malades qui n'ont pas eu reçu le vaccin du tout et qui sont les plus fragiles. Et ça, il faut maintenir ce cap.
Justement, il y a des personnes âgées qui aimerait pouvoir prendre rendez-vous pour le rappel aujourd'hui. On a vu qu'il y a eu plus d'un million de prises de rendez-vous hier sur Doctolib, jusqu'à 30 minutes d'attente parfois pour atteindre la plateforme. Et du coup, on a certains auditeurs qui nous ont signalé aujourd'hui qu'ils peinaient à trouver un créneau. Je voudrais vous faire écouter Muriel. Elle est pharmacienne dans un petit village de l'Ardèche et elle nous a laissé un message au 3210. Écoutez-la.
On s'organise en prenant 2 jours dans la semaine pour vacciner une partie de la population. Mais c'est vrai que depuis hier, on est submergé de demandes. Et surtout, on se sent un petit peu seul et abandonné. Plus aucun médecin n'est vacciné. Les centres de vaccination aux alentours ont tous fermé. Et donc là, c'est toute la journée des appels. Les gens ne comprennent pas qu'on ne peut pas les prendre là, maintenant, là, tout de suite. Ma question est de savoir, monsieur le professeur, si la capacité logistique va suivre d'ici les fêtes.
Alors Alain Fischer, est-ce que ça va s'arranger là, cette situation, après cette ruée des premières heures?
Bon, on est dans une situation nouvelle, il faut une adaptation, mais je sais que les gens de ce qu'on appelle la task force du ministère de la Santé qui travaillent sur ces questions sont vraiment au taquet, entre guillemets, et en particulier des centres vont ouvrir. C'est pas strictement quelque chose que j'ai regardé de près, mais qu'au moins 300 centres devraient ouvrir. D'autre part, on nous sent une situation qui est quand même beaucoup plus favorable pour la vaccination, et c'est très bien chez le médecin, chez le pharmaciens, aussi chez les infirmiers, parce que les vaccins ARN maintenant se conservent mieux que C'était le cas il y a 6 mois, mettons. Et donc, c'est quand même plus facile. Je ne dis pas que c'est toujours très facile, mais c'est quand même beaucoup plus facile pour les médecins et les pharmaciens de vacciner. Encore hier, j'en discutais avec les collègues de notre conseil qui sont généralistes, qui disent qu'on peut y aller à fond. Donc, ils vont y aller à fond. Il faut s'adapter et, encore une fois, faire en sorte que les personnes âgées ne soient pas perdues dans les prises de rendez-vous. Pour moi, c'est une priorité.
Une petite question rapide sur ce rappel. Vous avez dit tout à l'heure qu'il y a une excellente réponse immunitaire. Le président du conseil scientifique dit anticorps multiplié par 10 dès 48 heures. Vous confirmez ?
C'est un tout petit peu optimiste, 48 heures.
D'accord. C'est combien, au bout de combien de temps
c'est
alors ?
Une semaine.
Une semaine,
ouais.
D'accord. Et multiplié par 10.
Oui. Ouais, ce qui est remarquable, là, parce que c'est en comparaison avec le titre d'anticorps observé, par exemple, après la primo-vaccination. Il y a des études qui ont comparé, alors ce n'est pas tout à fait les mêmes données, mais ça revient au même. Un mois après le rappel, comparé à un mois après la primo-vaccination, eh ben, on a 10 fois plus, en gros, en moyenne, 10 fois plus d'anticorps. Donc c'est considérable. C'est quelque chose de classique, hein, c'est ce qu'on observe dans les rappels de vaccination. Donc c'était attendu, c'est très bien, et c'est associé, c'est le plus important, avec les données israéliennes pour l'instant, avec une efficacité clinique qui est juste remarquable.
Ça, c'est un bon argument marketing. Et puis, juste dernière question sur ce rappel. Est-ce que ce sera uniquement avec du Pfizer et du Moderna, ou bien est-ce qu'à un moment donné, là, dans les semaines qui viennent, on va pouvoir compter sur le vaccin français Sanofi qu'on attend depuis si longtemps ?
Écoutez, dans l'immédiat, en tous les cas, ce sont avec les deux vaccins ARN. Ouais. On en a des quantités importantes disponibles. Ce sont de très bons vaccins tous les deux. Donc ça permet d'avancer et il n'y a aucune raison, en tous les cas, si des personnes se posent la question, d'attendre le fameux Sanofi ou pourquoi pas un autre vaccin. Maintenant, à un moment ou un autre cet hiver, le Sanofi, je l'espère, aura démontré toute son efficacité et il viendra s'ajouter à l'arsenal et c'est très bien.
Alain Fischer, vous restez avec nous, on marque une toute petite pause et ensuite les auditeurs continuent de vous poser vos questions au 3210, à vous le président du conseil d'orientation de la stratégie vaccinale. A tout de suite sur RTL.
RTL Soir, Julien Sellier. Julien Sellier,
l'invité d'RTL Soir.
18h33, RTL Soir continue de vous épauler face à cette cinquième vague. Alain Fischer, le président du conseil d'orientation de la stratégie vaccinale, continue de répondre à vos questions, à vous les auditeurs, au 3210. On va aborder un autre dossier, Alain Fischer, c'est la vaccination des enfants. Les 5-11 ans, l'Agence européenne du médicament a donné son feu vert. Nos autorités sanitaires vont maintenant se pencher sur le sujet. Sur ce thème, on a Vanessa, auditrice de Paris, maman d'une petite fille de 10 ans, qui nous a laissé un message au 3210. On l'écoute.
Nous sommes favorables à la vaccination des enfants pour plein de raisons, notamment au niveau de l'école. On le voit avec les grands, il n'y a pas de fermeture de classe. Les enfants vaccinés sont testés et restent au niveau de l'école. Donc c'est beaucoup plus simple pour les apprentissages. Donc professeur Fischer, est-ce qu'il y a en France une réelle volonté de vacciner les 5-11 ans? Et si oui, à quel moment?
Alors, on vous pose la question, Alain Fischer. C'est vrai qu'on a vu 4000 élèves testés positifs hier dans les établissements scolaires. Est-ce que c'est le sens de l'histoire, finalement, de vacciner les petits, les 5-11 ans, dans les mois à venir ?
Alors, il y a un certain nombre de conditions à réunir pour mettre en place cette vaccination. La première, elle est là. Il y a au moins un vaccin validé par l'Agence européenne du médicament, à une dose réduite pour les enfants, et qui a démontré dans les essais cliniques son efficacité. Donc, première condition, c'est bon. Deuxième condition, c'est y a-t-il de bonnes raisons de vacciner ? Madame a dit les choses justement. C'est clair que cela évite les cas dans les écoles et on voit que chez les adolescents, beaucoup vaccinés à 78% en première dose, ben on voit une réduction de la circulation du virus. C'est bien, donc moins de fermetures de classe, alors qu'il y a beaucoup de fermetures de classe chez les petits. Même si avec les ajustements où on va plus tester et on va moins fermer, mais quand même, ça existe. Et puis, même si ce n'est pas en premier plan, les enfants participent de la circulation du virus, peuvent transmettre le virus à leurs parents, à leurs grands-parents surtout. Donc ça, tout ça sont des conditions qui sont réunies et dans un contexte d'augmentation de l'épidémie avec des taux de circulation chez les enfants qui sont assez élevés, qui plaident en faveur de la vaccination. Il reste une condition qui n'est pas encore réunie avant d'y aller, de mon point de vue, c'est de s'assurer pleinement de la sécurité de ce vaccin, qu'on n'ait pas d'effets secondaires, d'effets indésirables. Je n'ai pas beaucoup de craintes, on va dire, mais on n'a pas des données suffisamment solides, parce qu'aujourd'hui, nous ne disposons que des données de l'essai clinique qui était effectué où il y a eu 1300 enfants vaccinés. Il ne s'est rien passé chez ces 1300 enfants, mais ça ne permet pas de détecter des événements un peu plus rares.
Et on l'aura quand, ce dernier?
Alors, ces données, on les aura assez vite, grâce aux Américains. Les Américains ont la malchance d'avoir des enfants qui sont plus malades que les petits Français en raison du Covid, parce que l'état de santé global des enfants nord-américains est moins bon, notamment en termes d'obésité. Et donc, ils ont débuté leur vaccination à peu près il y a une dizaine de jours. Donc, d'ici 8 jours, 15 jours, je pense, on aura des données sur 1 million, 2 millions d'enfants vaccinés. Et si sur ce panorama de 1,2 million d'enfants, il se passe rien de plus que ce que l'on connaît chez les adolescents ou les jeunes adultes, on aura la condition de la sécurité également réunie. Et dans ce cas-là, je pense que tous les feux seront entre guillemets ouverts et on pourra commencer la vaccination des jeunes enfants, donc ce qui pourrait nous amener à tout début janvier sans doute.
Mais ça veut dire que vous parliez de demi-doses, en tout cas de doses réduites. On les a déjà commandées ces doses pour les enfants ? On a anticipé ?
Tout ça a été anticipé, oui.
Tout ça a été anticipé.
Il n'y aura pas de difficulté d'approvisionnement.
Logistique, oui. Et juste un mot pour les ados, parce que là le temps presse et il va falloir qu'on rende l'antenne, mais on a quand même une question qui est importante, et notamment pour tous les parents qui ont des collégiens, des adolescents, des lycéens. Est-ce qu'il faudra aussi une troisième dose à terme pour les 12-17 ans ?
À voir, c'est possible parce que, encore une fois, le principe général de la vaccination, c'est que le rappel permet d'avoir une stimulation très puissante et donc une protection très très forte. Mais c'est légèrement moins d'actualité pour les ados puisque leur vaccination a commencé plus tard. Ouais. Il faudrait déjà finir la primo-vaccination, on est à 78%, mais allons à 95%, ce serait mieux. Donc, sur le plan théorique, j'aurais plutôt envie de dire oui, mais que ce n'est pas l'actualité immédiate.
Merci Alain
Sauf
Fischer.
Peut-être pour les adolescents fragiles qui ont des maladies chroniques, évidemment.
Merci Alain Fischer d'avoir été ce soir notre invité sur RTL, d'avoir accepté de répondre aux questions des auditeurs au 3210, vous le président du conseil d'orientation de la stratégie vaccinale. Merci encore. On va marquer une petite pause et ensuite rester à l'écoute parce que RTL Soir continue. On va refaire nos régions dans un instant, comme chaque vendredi. Vos 20 minutes de curiosité près de chez vous. Ce soir, Laurent Deutsch va nous plonger dans l'histoire de la Bretagne. On va aller faire un petit tour dans un village où il n'y a pas de nom de rue dans la Creuse. C'est assez étonnant. Et puis les conseils d'un chef étoilé pour cuisiner les cèpes dans le sud-ouest. A tout de suite sur RTL.
RTL Soir, Julien Sellier.